Bonjour, c'est l'émission Les Amis d'Orwell qui commence. Alors, en ce début d'année 2013, nous vous souhaitons les meilleurs voeux de l'équipe de l'émission. Et le sujet du jour, ça va être le forum Expo Protection qui a eu lieu au mois de décembre dernier au parc des expositions de la Porte de Versailles. Eh bien, c'est les Amis d'Orwell, l'émission de Souriez, vous êtes filmé qui commence, avec Amanda à la technique et avec Joël et Cyril, qui aujourd'hui vont nous parler de leur visite du salon Expo Protection, qui a eu lieu du 4 au 7 décembre dernier, au parc des expositions de la Porte de Versailles. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que... on se doute un petit peu avec le nom qu'il y a derrière, Expo Protection, ça va parler de sécurité et de protection.
Oui, tout à fait. Expo Protection, c'est un salon professionnel qui regroupe deux aspects. Donc, comme tu disais, la sécurité de la protection. Non, la sécurité et protection. Et l'autre aspect, c'est la santé au travail. Donc, avant, ce salon s'est situé à Villepinte. Hein, et donc, avec les bénéfices de la vidéosurveillance, ils ont immigré sur Paris. Et maintenant, il se tient au parc des expositions sur deux étages. Donc, ça prend de l'ampleur. Donc, il faut voir ce salon comme un grand salon de l'auto quand on arrive, consacré à la vidéosurveillance. Et quand on entre, c'est exactement configuration. Vous avez des petits stands de constructeurs qui présentent leurs produits et leurs solutions sur la protection. Donc le salon est aussi une rencontre entre des acheteurs de sécuritaires et des vendeurs, des élus et des lobbyistes.
Tu as parlé de vidéosurveillance, mais ce n'est pas uniquement centré sur la vidéosurveillance.
Non. Le salon, c'est la sécurité. Et donc, le plateau sécurité est composé pour un peu plus de la moitié de stands de vidéosurveillance. Un quart de la surface est tenu à peu près par les dispositifs anti-incendie. Et un autre quart par tout ce qui est prévention.
Protection,
donc c'est les barrières, les organes de contrôle, les serrures électroniques et la biométrie.
Ce qu'on appelle le contrôle d'accès aussi.
Le contrôle d'accès.
Mmh. Alors qui organise tout ça?
Alors c'est donc un regroupement de constructeurs. La N2V a plusieurs partenaires. Et donc, dans les partenaires, on retrouve les grands lobbies français de la vidéosurveillance, enfin de la sécurité plutôt. Je vais en citer quelques-uns. Tous ces lobbies, après, lors du salon, tiennent des conférences. Et donc, on retrouve le CNPP, hein, donc le Centre national de prévention et de protection, qui est une association loi 1901 qui fait des études dans le domaine de la protection et de tout ce qui concerne la sécurité et la protection. On a la N2V, hein, qu'on ne présente plus, qui est l'Union des entreprises, l'Association nationale de la vidéoprotection.
Qui a son propre salon d'ailleurs.
Également. Et donc anciennement, Association nationale des villes vidéosurveillées. Mais l'année dernière, ils ont décidé d'étendre leur sphère d'influence à tout le monde. Il y a par exemple aussi l'USP, l'Union des entreprises de sécurité privée. Tout est dans le titre. La GPMSE, Groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique. L'INIES, Groupement des industries du génie numérique, énergétique et sécuritaire. Et donc tout ce petit monde participe ou organise le salon, qui se veut le rendez-vous annuel. De tous ces professionnels de la sécurité.
Il ne faut pas oublier les partenaires institutionnels parce que c'est aussi une force du lobbying en fait. Tous ces partenaires institutionnels, ces instituts qui, à longueur de temps, promeuvent auprès des politiques la vidéosurveillance, les systèmes sécuritaires. Donc moi je vois aussi dans les partenaires l'INHESJ. qui est donc l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice. Et donc cet institut-là a théorisé pas mal, a amené pas mal la vidéosurveillance en France, notamment par l'entremise Alain Bauer, qui a fait un lobbying intense de la vidéosurveillance sous l'ère Sarkozy. Donc je pense que c'est important aussi de signaler ces instituts-là.
Et également, le salon reçoit la visite de quelques politiques, hein, notamment
un ministre là, en parcourant la plaquette avec le programme. Oui, on peut voir qu'un cocktail en l'honneur de la délégation officielle en présence de Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif.
Redressement productif ou répression productive,
hein. Non, ça c'est Manuel Valls.
Donc tout ce petit monde se rejoint sur ce salon. Moi j'y étais allé il y a 2 ans, donc j'ai noté qu'il y avait une influence plus forte du fait que c'était Porte de Versailles qu'à Villepinte. Hein. Beaucoup plus de monde.
Une affluence, et quel est le public qui vient ce sont des expositions et des conférences qui sont données pour des entreprises, pour les services sécurité d'entreprises, essentiellement, non ?
Oui, c'est dans le domaine de l'entreprise, mais le public est assez large parce que le fait qu'il l'ait mélangé avec la santé au travail, il y a aussi donc dans l'étage inférieur, tout ce qui est vêtements de sécurité, prévention des risques, comprendre pour les sociétés que le risque, c'est l'employé, hein, c'est surtout ça. Et tout ce qui est aussi chaises ergonomiques. Donc c'est vraiment l'entreprise et les institutions qui sont visées dans l'ensemble. Donc ça fait un brassage assez important de personnes. C'est pas juste un salon de chefs d'entreprise sécuritaire. Il y a un peu tout les publics. Au niveau des conférences, il faut voir comment le salon a été organisé. Donc, les conférences se tenaient dans des petites salles. L'accès extrêmement réduit, ce qui faisait qu'on avait une queue assez importante. Pour pénétrer dans le local. Donc ça donnait une ambiance un peu rockstar avec file d'attente pour les intervenants. Donc au final, hein, on se demande dans quelle mesure ce système a été choisi pour mettre en avant les intervenants et starifier un peu tout le système. C'est dans chaque salon, on a nos stands VIP. Et là, pour le coup, les conférences fonctionnaient un peu sur ce principe. Comme les salles étaient toutes petites, on avait vraiment l'impression que tout était fait pour aller voir une star qui s'exprime, quoi.
C'était quoi, donc, les thématiques des conférences ?
Alors, les thématiques des conférences...
Ça a l'air assez éclectique, quand même, quand,
oui.
quand on voit le programme. Hein.
Oui.
Bon, il y en a une, je suppose, que tu es allé voir. C'était, là, je tombe dessus. Combien gagnent les cadres de la sécurité privée ? Présentation d'un baromètre des rémunérations en France.
Alors, moi, je n'y suis pas allé le mardi. Les conférences sont sur 3 jours. Et je me suis présenté à plusieurs conférences. Il y en a beaucoup qui étaient au même moment, à des endroits différents dans les étages, donc il fallait sélectionner. Mais les thématiques, c'était tout ce qui concernait, un, comment mettre en œuvre son système de vidéosurveillance, donc comment avoir les crédits du FIPD, hein, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance qui finance les caméras. Deux, comment ils mettent en œuvre au niveau de la population. Il y avait aussi, comme c'est un salon mixte, pas mal de conférences sur la prévention incendie et les systèmes de prévention incendie, dont un que tu es allé voir, qui est Joël, qui est le travail en atmosphère réduite en oxygène pour éviter les feux.
Oui, ça donnait envie, en fait. C'est comment... le système révolutionnaire de baisser l'oxygène pour éviter les départs d'incendie, donc c'est faire travailler les gens dans une atmosphère qui est proche de la haute montagne, donc je suppose qu'ils doivent faire des gestes lents, surtout ne pas s'essouffler, parce que je suppose que ça va devenir très difficile de travailler au bout d'une heure dans ce genre d'environnement, mais en tout cas pour le patron, c'est toutes les garanties de sûreté pour ses biens, en tout cas.
Voilà, donc ça c'est le genre de thème qu'on peut avoir à Expo Protection. Donc c'est vraiment quelque chose qui est là pour mettre en œuvre la vidéosurveillance. Je vais vous citer 3 exemples hein, qui sont pas mal de conférences. Le premier que j'adore, c'est « La sécurité de l'État est devenue un bien commun ». Donc ça, je vous laisse le temps de réfléchir à cette petite phrase. Ensuite, « Sécurisation du personnel lors de déplacements de courte durée à l'étranger ». C'est-à-dire, je pense qu'ils ont, pour les otages au Mali, ils n'ont pas dû suivre la conférence. Et maîtriser les règles de levée de doute pour l'image, par l'image vidéo. Donc, c'est vraiment tout ce qui concerne la sécurité. Donc là, si on traduit, il y a la sécurité de l'État. Tout le monde doit participer à la sécurité de l'État. Il y a la sécurisation du personnel. Là, on voit émerger tout ce qui est sécurité privée et donc mercenaires, par exemple, hein. Blackwater et compagnie. Et donc, tout ce qui est l'usage de la vidéosurveillance et de tout ça. Mais il y avait une conférence à peu près toutes les demi-heures sur 3 jours. Et sur des thèmes très variés, avec quelques conférences très techniques hein, sur le...
Juste une question, ça coûtait combien alors de pouvoir rentrer dans ce salon ?
Alors, quand on va sur place, ça va jusqu'à 15 € l'entrée. Mais en s'inscrivant sur Internet, en mettant son nom sur Internet, c'est gratuit. Mais on a un badge qui nous suit tout le salon.
Voilà.
Donc on est fiché par la N2V.
En plus, on était deux intervenants de Radio Libertaire pour voir si ça marchait. Et puis ça marchait. Donc Radio Libertaire était particulièrement représenté sur ce salon.
Et il y a un truc aussi que tu racontais tout à l'heure, c'est que à tous les stands et dans tous les secteurs, tu étais badgé, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc, on a une petite carte avec un code barre qu'on porte autour du cou. Hein. Tous les visiteurs du salon ont leur badge. Et donc, chaque fois qu'on intervient sur un stand, qu'on est abordé par un vendeur sur un stand, il scanne cette fiche Et en plus, dans les allées du scanon, du salon, on a des hôtesses qui scannent dans les couloirs. Donc, on passe notre temps à être scanné sur l'ensemble du salon. Et donc ça, après, ils peuvent voir quels sont les stands qu'on a visités. Et depuis, je n'arrête pas de recevoir des spams sécuritaires pour acheter du matériel. Ça, c'est l'inconvénient. Voilà, il y a une surveillance, enfin un fichage qui est effectué sur l'ensemble des visiteurs du salon.
D'ailleurs, l'ambiance est assez... moi, je trouvais ça assez pesant quand même, parce qu'on est quand même dans un environnement très sécuritaire où on sent que c'est sécuritaire. C'est-à-dire, on sent quand même qu'on a des agents de la sécurité qui sont sur leur stand. Enfin, tout est construit aussi. Pour avoir les brochures, il faut aller au centre du stand. Donc déjà, traverser les intervenants, communiquer avec eux... Enfin bon, c'est un environnement assez hostile. J'ai ressenti aussi cette ambiance un peu... Enfin, je sais pas, c'est peut-être parce que j'y suis allé aussi tardivement le vendredi quand ça finissait. Il y avait vraiment cette... En fait, j'avais l'impression d'être dans l'entreprise avec les grilles, les caméras, les écrans, les serrures. Enfin, c'était assez surprenant.
Disons que c'est l'endroit où on va être le filmé le plus dans notre vie, vu qu'il n'y a pas un poteau, il n'y a pas une dizaine de caméras. Donc en tant qu'opposant à vidéosurveillance, je pense que ça nous met un stress supplémentaire.
Et à propos, j'ai une question là. Il y a des caméras partout, vous êtes filmé, enregistré, et vous-même, vous aviez la possibilité de filmer ou d'enregistrer des interviews avec des membres des stands?
Alors, moi, j'avais pris le micro, mais vous n'aurez pas de son parce que je m'en suis très, très mal servi. Mais donc, sur les stands, c'était un peu délicat. Alors, pour discuter avec les vendeurs, ils ne font pas de différence. Hein. C'est des vendeurs qui vendent à tout le monde. Donc, on est abordé très rapidement. Dès qu'on touche, comme disait Joël, dès qu'on touche une revue, on a quelqu'un derrière nous qui dit « Vous êtes intéressé ?» Et donc, du coup, on peut engager la conversation avec les membres des sociétés sur les stands. Après, sur la conférence à laquelle j'ai assisté, j'ai pu sortir le micro et enregistrer sans aucun problème à la vue de tout le monde. Hein. Alors, peut-être parce que c'était marqué « Radio » sur le badge. Ils ne sont pas trop posés de questions dans les conférences. Par contre, sur le stand, la première des questions, c'est vous êtes passé par le service de presse. Donc, en répondant, ça devient plus dur. Ceci dit, sans enregistrement, les discussions sont très intéressantes parce que chaque vendeur nous vend la technologie de l'année en dénigrant celle qu'il a vendue l'année dernière. Et donc, à force de détails techniques sur les matériels, on apprend tous les défauts des caméras de l'année dernière, donc qui sont encore installées maintenant. Et ça, c'est assez phénoménal. Donc, on apprend tout, que l'infrarouge, par exemple, en cas de fumée, ne voit pas à travers la fumée parce que la fumée est chaude. Donc, l'infrarouge ne marche pas quand il y a de la fumée. Que les boîtiers... sont pressurisés avec des gaz à l'intérieur pour éviter la corrosion et avoir une meilleure image. Que ces boîtiers aluminium qu'on voit un peu partout quand ils se dégradent créent des gaz toxiques. Que les vieilles caméras qui n'étaient pas HD quand elles zoomaient, elles étaient floues au centre. Enfin, c'est... Mais rassurez-vous, cette année, tous les matériels qui sont vendus ont réglé ces problèmes et...
Jusqu'au prochain salon.
Jusqu'au prochain salon.
On va peut-être faire une petite pause musicale avant de poursuivre sur le salon Expo Protection.
Talk it down, walk it off.
Radio Libertaire, c'est l'émission Les Amis d'Orwell. On continue donc à parler du salon Expo Protection qui avait lieu à la Porte de Versailles du 4 au 8 décembre dernier. Les envoyés spéciaux de Radio Libertaire, Joël et Cyril, s'y sont rendus. Donc on était en train de parler donc des stands d'exposition auxquels vous êtes rendu. Est-ce que vous êtes revenu avec pas mal de documentation?
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-bas?
Quelques kilos, oui.
Quelques tonnes de papier. Donc, ce qu'il y avait là-bas, il y avait un peu de tout. On va vous faire un petit descriptif de quelques stands. Donc sur la vidéosurveillance en particulier, pour commencer, il y a la gamme JM. C'est une gamme d'interphones électroniques avec donc des caméras, par exemple. Et ces interphones ont la particularité maintenant d'enregistrer les images, y compris quand vous n'êtes pas là. Donc dès que quelqu'un va se présenter à l'interphone, ça va déclencher un enregistrement de vidéo de la personne qui est devant la porte. Et donc ça, c'est ce genre d'infos qu'on peut recueillir sur le salon, parce qu'on n'y pense pas vraiment. On voit les interphones comme un truc tout flou, on reconnaît à peine, alors qu'en réalité, maintenant, c'est des caméras à 180 degrés qui enregistrent les images. Ça, c'est le plus anecdotique. C'est, sur ces stands, il y a quand même beaucoup d'éléments techniques. Des caméras dans tous les sens. Chacun présente son modèle de caméra, son modèle d'enregistreur d'image, ses murs d'image, ses tables de contrôle. Cette année, on pouvait jouer avec les tables de contrôle, d'ailleurs, ce qui n'était pas le cas à Villepinte, où chaque fois, il y avait un opérateur. Là, sur plusieurs stands, il y avait des tables en accès libre, donc on pouvait zoomer.
Table de contrôle, c'est-à-dire sur les consoles qui permettaient de contrôler les caméras et de les manipuler.
De les zoomer, de lancer les enregistrements et autres, on pouvait jouer avec. Ouais.
D'ailleurs, ils se prennent tellement au jeu qu'ils ont même développé un système de caméra immersif, c'est-à-dire que l'opérateur dorénavant pourra jouer un peu comme dans les jeux vidéo, s'introduire dans son élément qu'il surveille et se déplacer avec la caméra en fait dans le long des couloirs. Donc
c'est ce qu'on appelle le serious game, le jeu sérieux, qui est l'utilisation de, enfin la pratique des jeux vidéo dans un environnement de formation professionnelle. Ouais. On a ça, ouais, on a ça dans d'autres situations. Je pense au laboratoire de la sécurité qui est installé dans la ville d'Elancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines, où ils ont ce type de formation-là en immersion.
Sur l'urbanisme aussi, où on conçoit son quartier le plus urbaniste possible, enfin le plus sécuritaire en termes d'urbanisme possible. Il y a aussi une formation comme ça qui forme les urbanistes. Et c'est un peu... prévenir l'ennui de l'opérateur, c'est quand même pas mal comme volet de formation.
Et du coup, je me posais une question, est-ce qu'il y a des jeux, enfin, parce que là, ça, on a l'impression que les gens viennent s'amuser à jouer les contrôleurs. Est-ce qu'ils proposent des jeux pour donner envie d'acheter tout ce matériel sécuritaire, enfin...
Par rapport il y a 2 ans où tout était cadré, je pense que le fait de laisser les appareils maintenant en libre accès, c'est insister sur le côté que c'est facile à utiliser sans formation. Donc j'y vais un peu fort en disant qu'on joue avec. Moi, j'ai essayé d'arracher les boutons, de couper les câbles, enfin de la foutre en panne en réalité. C'est ça qui m'a amusé au Salon Expo, c'est casser le matériel. Mais le fait que ça soit en libre accès, c'est quand même une démonstration que n'importe qui peut s'en servir. Et je pense qu'ils sont passés à une étape au-dessus. C'est-à-dire, avant, ils vendaient un système avec des utilisateurs qu'il fallait former. Et maintenant, ils commencent à insister sur le côté ergonomique, facile. Ça, on le voit avec les autres stands qu'on va aborder après sur la vidéosurveillance intelligente, hein, sur les consoles. Il y a de l'ergonomie qui est le moteur de ce salon pour cette année.
Ça accompagne aussi, enfin, ça illustre aussi ça dans l'évolution de la vidéosurveillance en société. On passe vraiment sur une vidéosurveillance chez soi. On était passé de la vidéosurveillance publique vers quelque chose de beaucoup plus intime, c'est-à-dire la vidéosurveillance qui nous appartient, en fait, dont on s'approprie. Et c'est un peu dans ça qui glisse actuellement, on a l'impression.
Oui, surtout que les évolutions techniques sur les caméras en elles-mêmes passent un peu à la trappe sur ce salon. L'année dernière, le motif était la caméra HD. Donc, on avait des caméras partout marquées HD, HD, HD. Là,
Haute, haute définition.
haute
Ouais.
définition.
Et maintenant, elles sont toutes achetées.
Et là, il y a très peu de nouveautés au niveau des caméras. Il y avait quelques caméras, ce qu'ils appellent 360, qui sont des caméras sans mouvement. Ça marche sur les objectifs fisheye. Alors fisheye, si vous voyez, c'est les images déformées en rond
C'est
de
très très
photos.
grand angle.
Très grand angle. Et là, l'image est toute déformée. Et donc, les caméras utilisent cet objectif pour prendre. C'est une vision de poisson, en réalité. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et c'est redressé électroniquement pour avoir un bandeau face avant sur 180 degrés et un bandeau face arrière sur 180 degrés. Donc, moi, j'ai la photo sous les yeux. C'est très dur à la radio de faire passer ça. Mais donc, on a deux bandeaux. On voit tout ce qu'il y a devant sans angle mort par rapport à la vision des humains. Tout ce qu'il y a derrière, pareil, hein, sur deux bandeaux séparés. C'est très dur à analyser. Pour faire le test, je me suis mis en dessous une de ces caméras. Qui avait un dressement qui était moins spectaculaire que sur les revues. Et donc, il y avait encore des déformations dans les images. Il m'a fallu plus d'un quart d'heure immobile en dessous, en regardant l'écran, pour repérer où j'étais dans l'espace par rapport aux images. Très, très dur à appréhender ce genre de vision par un être humain, hein. Donc, a priori, ça sera pas très efficace pour des interventions rapides. De toute façon, on sait que ça marche pas, mais.
Mais là, c'est plutôt avoir la plaquette, c'est plutôt pour un intérieur d'entreprise. Ce que semble représenter la photographie, c'est le hall d'entrée d'un immeuble.
Oui, dans le contexte du salon, il y avait des travées. Et des présentoirs comme dans le cadre d'un magasin. Donc là, effectivement, on voit que tout est dégagé dans la photo publicitaire. Mais dès qu'il y a un obstacle ou qu'il y a des couloirs, ça devient très, très dur à savoir où on est, quoi, en regardant le mur d'écran.
Ce qu'on voit aussi, on voit aussi une évolution de l'aspect des caméras qui a tendance à aller de plus en plus dans la banalisation de la caméra et son immersion dans l'environnement naturel, enfin dans l'environnement public, dans l'environnement des gens. Donc elles ont de plus en plus l'air de lampes, de décorations, d'éléments de décor.
Ça, c'est, on peut le rappeler aussi, c'est aussi le cas des caméras du plan 1000 caméras de Paris. Il ne s'agit pas de la caméra parallépipédique qu'on avait l'habitude de voir ou de représenter sur les stickers ici ou là, mais beaucoup de gens imaginent qu'il s'agit d'une lampe qui ne fonctionne pas, qui est éteinte.
Tout à fait.
Et donc, sur le stand, enfin, sur le salon, ça, on ne le voit pas beaucoup, l'implantation un peu camouflée dans le paysage. Comme le but, c'est de les vendre, ils les mettent bien en évidence. Même les boîtiers sont mis en évidence et assez technologiques, motorisés, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a aucune caméra de ville ou de présentoir de ville ou de poteau. C'est jamais présenté. On a la caméra nue ou la caméra dans un boîtier flashy, quoi.
Voire même des murs de caméra, parce que certains endroits, on a des boîtiers, 6-7 boîtiers alignés sur le même mur, 6-7 caméras alignées sur le même mur pour faire des comparatifs. Il n'y a pas du tout une tentative de fabriquer un faux décor avec un petit banc, un arbre et puis une caméra.
Bon, le salon s'adresse aussi à des entreprises. Il faut que les caméras se voient dans les magasins. Bon, il y en a qu'on ne voit pas. Mais à la base, il y a quelques caméras qui doivent être bien visibles. Sur l'évolution des caméras, donc c'est un peu en stand-by. Enfin, moi, c'est l'impression qui en est ressortie des stands par rapport à il y a 2 ans, où on met, les vendeurs mettaient moins en avant la technologie des caméras. Donc ça reprendra, parce que si ça suit la télé, on va avoir des caméras 3D avec des lunettes, hein, dans pas longtemps. Mais une chose qui était à la mode avant les systèmes d'interprétation, c'est tout ce qui est la robotique de la caméra. Donc ce qui arrive, c'est la caméra qui se déplace. Et donc, on a un stand qui proposait un robot à roues qui était pour les entrepôts et qui faisait une ronde automatique. Donc, le robot était sur batterie et se déplaçait tout seul. Sur un autre stand, il n'y avait aucune dock. C'était un gros stand d'un gros constructeur du côté de Siemens, mais ce n'était pas Siemens, peut-être une filiale, qui proposait des drones privés volants. Mais là... des drones privés volants, ça doit être un prix assez conséquent, donc il fallait être VIP. Et on n'avait pas le badge VIP. Donc pour avoir les infos, il fallait passer au petit salon derrière. Et c'est un peu comme acheter les Ferrari, je pense, au salon de l'auto. Mais ils proposaient des drones. Donc je ne vois pas quelle société a l'usage de drones volants de caméra.
Ça dépend. Si à terme, on peut remplacer un certain nombre d'employés qui font des rondes à la lampe de torche par des drones qui patrouillent, ça peut être rentable sur le long terme quand même.
Mais il y a ce petit robot qui fait ça. Hein. Il doit être moins cher
voilà,
qu'un drone.
Un emploi d'épargné.
Mais il y a, c'est un peu cyber. Hein. Dans l'argument de vente du robot, on voit un couple agent-robot innovant. Avec un slash entre agent-robot, c'est un agent et un agent qui est un robot. C'est pas très clair.
En tout cas, l'agent, on le voit pas si c'est un humain.
Ben, on le voit, on le voit là, à côté, en filigrane. Mais donc, améliore la proactivité à distance de l'agent et le gain de productivité. De l'agent, sûrement.
C'est vrai qu'un drone, ça dort pas.
Ça dort 6 heures quand ça recharge les piles, mais.
Alors, il y avait d'autres stands ?
Oui, donc il y avait tout ce qui était vidéosurveillance intelligente. Donc, ça, c'était le gros morceau du salon. Tout ce qui était. Donc, on a déjà fait une émission dessus. On ne va pas refaire tout l'historique. Hein. Mais c'était vraiment. L'analyse de l'image qui était mise en avant dans le salon cette année. Donc tout ce qui est l'analyse comportementale. Et moi j'ai trouvé qu'ils se lâchaient un peu les vendeurs et qu'on basculait de l'effraction de l'individu suspect à la foule qu'il fallait contrôler. Et dans les textes, il y avait aussi, ça se ressentait. Là, on est dans du vrai contrôle de foule assez indéterminé. Et ça s'était pas vu il y a 2 ans, où le but, c'était d'identifier des braqueurs, des malfrats. Et là, on a du contrôle général, quoi.
Donc là, concrètement, c'est sur ces stands, on trouvait essentiellement de la pub pour des logiciels qui vont analyser les images des caméras.
C'est ça, tout un système de logiciels, d'écrans, toute une représentation de l'image de la vidéosurveillance et tous les moyens pour faire une analyse de cette image numérique. Donc, un des grands invités du salon, parce que c'est très simple à faire, c'était l'identification des plaques d'immatriculation. Donc, même les systèmes privés, maintenant, sont équipés du LAPI qu'on avait vu dans les systèmes de police embarquée. Donc, ça, c'est dans ces systèmes intelligents, c'est l'élément de base. Ensuite, on a tout un développement qui est fait donc sur le contrôle des foules. Donc on voit sur le stand de Nice, pas la ville, hein, c'est une société anglaise, avec les zones pour contrôler les mouvements de foule, pouvoir détecter les attroupements. En discutant avec le vendeur de Nice, Nice peut-être, vu qu'ils sont anglais.
Ouais, on a du mal à comprendre le choix du nom, mais...
Et donc, il faisait des recherches et il commençait déjà à me vendre quelque chose qui n'existait pas pour l'année prochaine, qui était le contrôle des individus dans la foule en enregistrant des points sur la morphologie. Donc, il prenait l'exemple de l'empreinte palmaire, ce qui est l'empreinte de la main en biométrie, en disant qu'on pouvait faire la même chose avec les corps humains, que pas un des corps humains se ressemblait. Et qu'ils étaient avancés dans les recherches pour identifier la morphologie d'un corps humain dans une foule, en m'expliquant en même temps que dans les systèmes actuels, quand 2 personnes se rapprochent dans une foule, la caméra ne sait pas l'interpréter, et donc on ne peut pas identifier les personnes. Donc, comme je disais, on utilise les défauts de la technologie d'avant pour vendre la suivante. Donc, il y avait tout un tas de systèmes comme ça, de reconnaissance, qui était développé. Ça, on en a parlé lors sur les panneaux publicitaires de la RATP. Tous ces systèmes font de la surveillance et en même temps sont développés pour les commerces. Donc, il y a une nouvelle utilisation de la vidéosurveillance qui arrive dans les commerces et systèmes privés de surveillance, qui est l'analyse marketing.
Statistique, en fait.
Voilà. Donc, là, je lis, par exemple, chez Asset Sécurité. Un outil marketing, grâce à l'analyse comportementale du client, est donc une aide à sa fidélisation. Donc, quand vous entrez dans un magasin vidéosurveillé, vous serez analysé sur vos comportements commerciaux. Donc là, on quitte le domaine de la surveillance et du sécuritaire pour vraiment rentrer dans celui de la vente. Donc ça, c'est un des autres axes qui va se développer dans les systèmes privés à grande vitesse pour les années qui viennent.
Donc tu parlais des écrans du métro. Oui, on rappelle qu'il s'agit des écrans ACL. Contre lesquels il y avait eu une mobilisation il y a 2 ou 3 ans, et une mobilisation qui avait débouché sur l'abandon du système embarqué de caméras, qui n'avait pas abouti sur la suppression de tous ces écrans. Ceci dit, l'emplacement est, paraît-il, toujours là pour pouvoir accueillir des caméras permettant donc de faire des statistiques, de pouvoir compter les personnes qui passent devant, ainsi que éventuellement d'analyser aussi les zones de l'image où se pose le regard.
D'ailleurs, j'ai vu que ces systèmes-là, ils les ont développés déjà dans certains supermarchés où ils sont en test, où sous les écrans qu'on voit souvent au-dessus des caisses, qui sont censés nous occuper l'esprit, des fois qu'on s'ennuierait à la caisse, Ces écrans-là, certains sont déjà équipés d'outils statistiques pour comptabiliser le nombre de gens qui passent en caisse selon les horaires, en fait. Et ça, j'ai vu qu'il y avait déjà des supermarchés qui l'avaient mis en place. Alors, après, je ne sais pas dans quelle mesure c'est indiqué ce genre de dispositif. Hein.
Sur les dispositifs, hein, donc on disait qu'il y a une libération un peu des esprits dans le pire. Là, il y a une plaquette quand même qui est assez importante. Hein. Je pense que c'est la plaquette qui recense qui résume la dérive de ce salon sécuritaire. C'est A7 Security qui propose une solution anti-vandalisme qui est une caméra camouflée dans un luminaire. Et donc, les images qu'on voit, c'est dans la plaquette, c'est des voitures brûlées et des barres HLM. Et donc, le principe, là, on est dans la répression. Et ça, c'est quelque chose qui arrive sur ce salon, qui n'était pas il y a 2 ans. C'est l'aspect répressif, supplémentaire et un peu actif dans la répression. Parce que le discours, c'est vraiment de faire mal. Tel esprit qu'il croyait prendre, dissuader suffit-il ? Manifestement non. Il passe une étape supplémentaire.
Surtout que ça s'appelle Aladdin Secureland. Tout ça, ça donne une vision d'un monde très sécurisé. Alors le Aladdin, j'essaie de visualiser ce que ça veut dire, mais
ça me renvoie au mille et une nuits, non, Aladdin. Enfin, je veux dire,
c'est le monde merveilleux de la sécurité.
C'est. Je pense que comme la caméra est dans une lampe, la caméra est le génie de la lampe.
Ah, on frotte pas 3 fois la lampe pour.
Et une chose qu'il n'y avait pas donc sur le salon, c'est les solutions directes. Donc là, on va s'arrêter ensuite pour une pause musicale. Mais on est dans le système qui est appelé Smart Water, qui là est une espèce de produit chimique qui est balancé sur
Les contrevenants.
Les contrevenants, merci. Qui permet leur marquage de manière indélébile. Et ça, on n'avait pas encore de système d'armes dans ce salon. Et on voit ce produit qui arrive, qui n'existait pas il y a 2 ans, qui fait la transition donc, entre tout ce qui est sécuritaire et tout ce qui est technologie de l'armement. Et peut-être dans 2 ans, on aura du taser et des choses comme ça dans ce salon sécuritaire.
Donc là, le système, il s'agit en fait d'une sorte de liquide transparent qui explose au visage d'une personne. Alors, il ne se voit pas, mais par contre, en lumière infrarouge, on distingue les taches qui sont produites.
Oui, c'est ça.
Ils ont un système qui permet par éclairage de faire ressortir sur la peau, sur les vêtements, le produit pulvérisé. Et en plus, ce produit est assorti d'un code chimique unique. Donc après, va savoir ce qu'il y a dedans aussi dans ce truc chimique. Mais la brochure est déjà assez effrayante en elle-même puisqu'elle présente un terrible terroriste qui se cache et qui essaie de se protéger d'un jet d'eau. Et donc, ça nous laisse imaginer, oui, effectivement, la dérive sur les systèmes de l'avenir qui sont ceux de répression plus que de prévention.
On va faire une nouvelle pause musicale et puis on va enchaîner avec un petit compte-rendu d'une des conférences qui a eu lieu au Salon Expo Protection.
Le réquiem des ventres creux qui montent loin, grand plus fort à chaque nouvelle recrue. Ses crocs sont acérés, brillent d'une blancheur nacrée. Ayez crainte car ils n'attendent qu'une chose, qu'on les libère de leur écrin. Nous vous cracherons nos cris coincés dans le gosier avec la poésie des bêtes de somme qui sortent de l'enclos. Nous bannirons les mots ramollis de pleurs et de sanglots et ceux qui vous désigneront seront alors des plus grossiers. Et vous pourrez toujours nous jouer de la rhétorique. Oui, nous serons pour vous la langue lourde et méthodique. Vous accuserez le coup d'une mémoire séculaire. L'évolution de ce monde ne sera pour vous plus jamais salutaire. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence, et t'auras beau prier ton Dieu. Quoi bon préparer votre retraite? Une horde d'affamés s'amasse en bas de vos fenêtres. Et pour vous, à la cautériser l'endroit où croissent la tendresse. Oui messieurs, c'est bien à vous qu'elle s'adresse. Son visage est d'un calme absolu et vous défie du fond des yeux d'un air ferme et résolu. Et là, vous comprenez trop tard que votre époque est révolue. Que si on en est là, c'est parce que vous l'avez voulu. La pluie inondera de larmes le pavé. Le vent de nos clameurs soufflera vos certitudes. Des coulées de dégoût engloutiront tous vos palais. Charriés par ce torrent qui sort du lit de sa servitude. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence et t'auras beau prier ton Dieu. Paternaliste, vos sourires narquois et tous vos traits d'humour raciste. Vous ne pourrez plus vous afficher de dorures indécentes. Vous gargariser des dividendes et jouir du fruit de vos rentes. Quand vous sonnerez la cloche, seul le silence vous répondra. Vous nous direz votre petit père.
Donc on reprend l'émission sur le salon Expo Protection. Alors Cyril et Joël, vous n'avez pas fait que vous baladez dans les stands, vous avez aussi suivi des conférences dont on a un peu parlé tout à l'heure. Cyril, toi tu as suivi la conférence de l'AN2V, donc on le rappelle, l'Association Nationale des Vidéos Surveillées, qui s'appelle maintenant l'Association Nationale pour la Vidéoprotection.
Voilà, et donc cette conférence avait pour thème l'évaluation de l'efficacité de la vidéosurveillance. C'était un cours magistral à base de PowerPoint qui durait une bonne demi-heure avec 10 minutes d'intervention à la fin. Et donc le principe de l'évaluation de la vidéosurveillance, c'était de dire que les caméras avaient trois types d'usages. Donc un usage de dissuasion, un usage de flagrant délit et un usage d'élucidation. Et pour chacun de ces usages, l'AN2V recommandait de faire une évaluation par rapport à l'usage. Et donc identifier des caméras qui servaient à la dissuasion, au flagrant délit ou à l'élucidation. Donc le principe de ce lobby, pourquoi est séparé en trois fonctions les caméras alors qu'ils nous le vendaient au départ, les caméras faisant tout, c'est pour permettre de redéployer trois fois plus de caméras dans le futur, en disant voilà, on mettra des caméras de dissuasion, des caméras de prévention, et des caméras de flagrant délit et des caméras d'élucidation.
En même temps, c'est pas très surprenant comme type de discours. Puisque c'était complètement le discours qui avait été utilisé pour critiquer certains arguments en tout cas qui étaient utilisés pour critiquer les systèmes de vidéosurveillance et leur inefficacité. Donc c'est assez logique que les fabricants, les marchands de caméras et de systèmes de vidéosurveillance récupèrent ces arguments à leur profit également pour éventuellement agrandir des marchés.
Oui, c'est sûr qu'on a l'impression de travailler pour le développement de leur industrie parfois. Mais le fait qu'ils écoutent les opposants pour relancer leur commerce, c'est quand même un sacré tour de passe-passe. Et dans la forme de la conférence, ça a commencé par un reportage de TF1. Et donc, l'intervenant de la N2V et critiquer les reportages sécuritaires de TF1 en disant qu'ils n'avaient rien compris à la vidéosurveillance. Donc ça mettait dans quand même une espèce d'ambiance au départ, surtout que l'intervenant, c'était le patron de la N2V, là. Et il est carrément excité. C'était stressant, sa conférence, un peu. Et quand il présentait son PowerPoint, c'était un peu... on était déjà à moitié assommé, quoi.
Moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'on évoluait pas mal vers la surveillance à distance et la combinaison de moyens de surveillance. Donc, la vidéo très présente, mais faut aussi signaler toutes ces grilles intelligentes et tous les autres senseurs et autres dispositifs qui sont présentés. Et donc, j'ai lu un article notamment issu de Expo Protection qui met en avant le fait que, à l'avenir, la vidéo pourrait être pas être le facteur premier de la levée de doute, comme ils disent, c'est-à-dire déterminer s'il y a une alerte, pouvoir lever cette alerte, qu'à l'avenir, ils allaient privilégier la combinaison de moyens, donc les senseurs thermographiques, vidéo, audio, etc. Donc ça, c'est une évolution aussi que j'ai constatée sur ce salon.
Alors, l'émission arrive à son terme prochainement. Vous avez quelques impressions finales à nous donner avant qu'on brosse un rapide agenda ?
Sur le salon, l'impression, c'est cette dérive vers des moyens de répression physique, alors qu'il y a 2 ans, c'était plus un salon consacré à la surveillance et à la détection. Donc des systèmes et des publicités comme les caméras cachées et le produit éclatant, il n'y en avait pas il y a 2 ans. On a aussi dans la même veine du matériel militaire qui avait fait son apparition, des clôtures électroniques à infrarouge. Et je pense que ça a monté d'un cran dans le contrôle de la foule. Moi, c'est l'impression générale que j'aurais de ce salon. Et je ne serais pas surpris dans 2 ans de voir arriver, comme je disais, des tasers ou d'autres équipements de ce style.
Moi, l'impression, c'est qu'on glissait aussi vers quelque chose, une vidéosurveillance plus personnelle, plus d'entreprise, plus commerciale, économique, et moins vers l'urbanisme. L'urbanisme est très peu présent, la sécurité de l'urbanisme. Et donc, du coup, les seuls systèmes que j'ai vraiment vus de contrôle urbain, c'était des systèmes de contrôle de ville entière, c'est-à-dire des panneaux avec la vision des flux de circulation et des différents paramètres qui étaient regroupés au sein d'un même, enfin sur un même panneau en fait. Donc on voit même plus l'individu, là on voit beaucoup plus une gestion des villes en fait. Et je pense qu'on va aussi aller vers cette gestion des villes comme un ensemble de paramètres sécuritaires.
Alors avant de terminer, quelques éléments d'agenda, Joël, pour faire la transition. Donc là c'était le salon Expo Protection, ça a lieu tous les 2 ans, mais il y a également d'autres salons un peu similaires, et tu voulais, pour ceux qui auraient les mêmes pulsions masochistes que vous, tu voudrais proposer à des Lillois de visiter un autre salon.
Je sais qu'on a des amis du côté Lillois et que... à défaut de vouloir s'intéresser aux technologies, pour au moins les perturber si... en étant averti. Donc le 28 et 29 janvier à Lille, on a un forum international sur la cybersécurité. Donc ça, c'est aussi une obsession maintenant. Étant donné qu'on a la télésurveillance, il faut aussi surveiller Internet par lequel passe la surveillance.
Cyril, une autre date peut-être par rapport à un empaquetage de caméras Place d'Aligre ?
Oui, donc là, début janvier, un paquet cadeau est apparu sur la caméra Place d'Aligre. Et il est prévu donc chaque mois de renouveler ce type d'événement à Place d'Aligre sur la caméra jusqu'à sa disparition. Donc il n'y a pas de date pour l'instant, mais chaque mois vous pouvez venir Place d'Aligre, ça sera annoncé pour faire toutes sortes d'actions autour de cette caméra.
Merci. Donc, et on rappelle également, suite au thème de la dernière mission, on avait parlé de la répression à Notre-Dame-des-Landes, que demain, mercredi, il y a deux personnes qui passent en procès pour des accusés d'avoir apposé des tags sur une, voire plusieurs permanences du Parti Socialiste à Paris. Et il y a des rassemblements de soutien qui sont annoncés. Il y en a un premier à 8h30 et un second, le plus gros apparemment, là, à midi. Donc c'est au palais de justice, c'est au métro Cité. Je n'ai plus l'information sur le lieu où ça se trouve à l'intérieur.
C'est la 24e chambre qu'on connaît bien sur l'île de la Cité, donc au tribunal correctionnel, 24e chambre, rendez-vous 8h30 et rassemblement midi également.
Ouais. Et on va se quitter là-dessus. La prochaine fois, il est possible qu'on parle du livre de Jérôme Torel, donc, qu'on a déjà reçu dans cette émission. À la prochaine.
J'aurais pu faire mon beurre à la télé, vendre de la poudre aux yeux avec fierté, m'en mettre plein le nez, changer mes assistantes et la couleur du canapé au gré de mes humeurs, de l'audimat et des parts de marché. J'aurais pu me farcir de la bourgeoise, sortir mon numéro, les yeux doux qui l'apprivoisent, la baiser dans ses draps de soie, lui passer la bague au doigt, me mettre à l'aise, qu'elle m'entretienne et paye l'ardoise. J'aurais pu être bandit de grand chemin, un mafioso, un macro, un putain de requin, la sale race, la main de fer qui fout les filles au tapin, qui joue du revolver et distribue la dope aux gamins. J'aurais pu faire carrière dans les affaires, enchaîner les diplômes pour un job à gros salaire, spéculer à la bourse, m'enrichir sur la misère, rêver de paradis fiscaux et investir dans la pierre. Un jean, des baskets, ni cravate, ni paillettes, reste simple dans ma tête, c'est la vie que j'ai choisie. Des mots qui débordent sur des notes qui s'accordent, un goût pour le désordre, et c'est la vie que j'ai choisie. Je n'ai pas de compte à rendre, pas prêt de me vendre, à pas qui veut l'entendre. C'est la vie que j'ai choisie, des soucis, des névroses, des coups durs, des échymoses, j'en connais la cause, c'est la vie que j'ai choisie, par tant de rage. J'aurais pu finir flic ou militaire, servir à des conneurs sous les ordres du ministère, partir au pied levé, quitter ce que j'ai de plus cher, un belliqueux, belligérant, inconscient et prépubère. J'aurais pu consacrer ma vie à Dieu, faire vœu de chasteté, méditer les écrits pieux, méditer, baratiner les pauvres et les vieux, délivrer la bonne parole d'un tout-puissant venu des cieux. J'aurais pu ressembler à Victor Bout, un seigneur de guerre sans scrupules qui sillonne les routes, qui suit de près tous les pays en déroute. Tu veux des armes, donne-moi la thune, est-ce que t'en fais, moi j'en ai rien à foutre. J'aurais pu me nourrir de sang paplard, de ces familles entières exsangues au regard blafard, leur faire passer la frontière pour trimer comme des bagnards, les priver de lumière, les écraser comme des cafards. Mais anti-patron, anti-faf, anti-con, anti-religion, et c'est la vie que j'ai choisie. Une faucille, un micro, je fais parler mes idéaux et pas en grève s'il le faut. C'est la vie que j'ai choisie, je suis toujours speed, en stress sur le qui-vive, le portefeuille est vide, et c'est la vie que j'ai choisie. Y'a pas de drame vieux, j'ai séché mes larmes, c'est ma façon de prendre les armes. C'est la vie que j'ai choisie, par tant de rage. Par tant de rage, il est question de prise de position, garder la tête froide sans gaspiller les munitions. Car le plus dur n'est pas de rentrer en résistance, non. Le plus dur reste à tenir la distance. Je me méfie de l'eau qui dort comme de la poudre aux yeux. Le capital est sournois, rusé, véreux et vicieux. J'ai vu des guerriers valeureux tomber à genoux devant moi, changer de fusil d'épaule. Choqué, je restais sans voix, conscient de ça. La vie continue et le combat aussi, même si c'est difficile, même si autour ça sent le roussi. Je m'accroche à une éthique, m'accroche à des idées. L'utopie est belle, je laisserai pas le temps la décimer. Allez, allez courage, l'ami, demain Paris sera beau. Société, tu m'auras pas, non, j'aurai ta peau. Si tu voulais connaître ma ligne de mire, la voici. C'est ça la vie que j'ai choisie. En marge, en sous-marin, loin du rêve américain, je me le répète tous les matins. C'est la vie que j'ai choisie. Alternative, sa conduite est agressive, sulfureuse et subversive. C'est la vie que j'ai choisie. Hors des sentiers balisés, des salons tamisés, je ne suis pas là pour t'amuser. C'est la vie que j'ai choisie. Et ça monte dans les tours, c'est ingrat et sans détour, mélange de peine et d'amour. C'est la vie que j'ai choisie. Par tant de rage. Thank you.